Go, la revue d'e-presse JB.
Ce podcast est disponible H24 sur iTunes, PodCloud,
Deezer.
C'est pas sexy Sarah ça?
C'est pas sexy choucroute Sarah ça?
Nous sommes le jeudi 12 juillet 2018 et vous êtes là, oui, bienvenue. Bienvenue pour la revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de jeux vidéo chaque matin. Moi c'est Bruno Roca, donc toujours très heureux de vous accueillir, les habitués, les nouveaux. Tout le monde est accepté dans cette grande farandole d'actualité vidéoludique. J'espère que vous allez bien, que la journée démarre pas trop mal pour vous. Ce matin, une édition un peu plus petite que les éditions précédentes, pour diverses raisons, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais voilà, c'est une édition un petit peu plus petite, mais avec des sujets de qualité, dont deux sujets après la brochette de news, qui vraiment me tiennent à cœur, et je suis très content de vous en parler, vous verrez cela. Sinon, pour vous donner des petites infos comme ça, je suis en train de préparer activement la rentrée pour la saison 2 de la revue de presse JV. Pour les tipeurs, alors je rappelle que les tipeurs ont des salons dédiés sur le Discord, le lien est dans la description de l'émission, tout le monde peut venir, des salons publics pour tout le monde, mais effectivement pour les tipeurs, ce qui est normal, il y a des salons dédiés, et après avoir vu avec eux pour le nouveau logo, là nous sommes en train de voir pour le Tipeee, les récompenses du Tipeee pour la saison 2, j'aimerais améliorer tout cela, améliorer la récompense pour les tipeurs. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir en parler sur le Discord ou sur Twitter, hein, n'hésitez pas. J'aimerais vraiment faire en sorte que l'offre soit la plus attractive possible. Vous savez que pour l'instant, chaque samedi pour les tipeurs, vous avez l'édition inédite, la revue de presse rétro. Alors le but n'est pas d'anéantir la revue de presse rétro, bien évidemment, je sais qu'elle fonctionne très bien parmi bon nombre d'entre vous, mais j'aimerais diversifier un petit peu l'offre pour les tipeurs au niveau des contreparties. En tout cas, c'est en discussion pour l'instant, n'hésitez pas à me faire part de votre avis. Pour l'instant, hein, car il faut aussi vivre au présent, eh ben c'est la brochette de news qui nous attend, qui nous tend les bras avec ses actus qui fleurent bon la fraîcheur du petit matin. Allez, c'est parti. Yo-Kai Watch 4 sera lancé pour Switch cet hiver au Japon. C'est ce que nous révèle le dernier numéro de Korokoro Comic. Auparavant, on savait que Yo-Kai Watch 4 devait sortir globalement pour 2018. Mais ça y est, c'est acté, ce sera pour cet hiver au Japon. Qu'est-ce qui va se passer dans ce quatrième épisode canonique? Eh ben on apprend, enfin en tout cas Korokoro Comic nous apprend que c'est une grande aventure qui attend les joueurs qui pourront traverser l'espace et le temps pour aller venir entre les mondes de Natsume, Keita et Shin. Le même magazine révèle, hein, on est sur du level 5, hein, vous l'aurez compris, que Inazuma Eleven Scale of Ares aura le droit à son event le 26 août prochain. Attendu cet automne au Japon et en 2019 en Occident sur PS4 et Nintendo Switch et aussi sur smartphone, le jeu va tenter un peu de renouveler sa formule. Alors, parmi les nouveautés, même si on en apprendra bien sûr beaucoup plus le 26 août lors de l'event officiel, les développeurs ont déjà donné quelques petites infos, notamment un système de scout, hein, je cite, qui permettra de composer sa team en prenant des joueurs venant de divers établissements, de diverses équipes et faire un petit peu sa dream team. Bon, on va voir ce que ça va donner. On sent que Level 5 essaye toujours de pousser ses trucs. Alors, j'ai cru comprendre, si j'en crois les derniers Gaijin Dash, le podcast sur le jeu vidéo japonais que vous pouvez écouter ou voir sur Gamecult, que Yo-Kai Watch s'était vraiment cramé au Japon. Alors, est-ce que ces deux jeux vont connaître le succès en Occident? Nous verrons bien. Bonne nouvelle pour les possesseurs de PS4. Puisque le jeu de survie aquatique Subnautica, déjà dispo sur PC, Mac et Xbox One, va arriver en fin d'année sur PlayStation 4, sans plus de précision, si ce n'est que c'est le studio Panic Button qui se charge de ce portage. Ambiance Cousteau et crustacé toujours, l'update aquatique est désormais disponible intégralement pour Minecraft, et ce, quelles que soient les plateformes. Alors vous savez que ça vous ouvre de nouveaux horizons, sous l'eau, des décors, des personnages, des objets à ramasser, voilà, un véritable monde aquatique s'ouvre à vous. Enfin, terminons cette petite brochette de news matinale en citant le directeur créatif de Naughty Dog, Neil Druckmann, qui sur BuzzFeed s'est laissé à quelques mots concernant The Last of Us Part 2 en précisant ceci, je le cite, « Ellie a été un PNJ, donc un personnage non-joueur dans le premier épisode, bon, entre parenthèses, sauf lors d'une phase. » Hein, voilà, on va pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore fait le premier épisode. Bref, Neil Druckmann nous dit qu'elle est désormais la protagoniste principale de cette histoire et le joueur la contrôle. Mais comme dans le jeu précédent, comme dans le premier épisode, il y aura un PNJ qui sera là pour vous accompagner. Et Neil Druckmann précise que ce PNJ n'a bien sûr pas encore été montré dans la démo. Donc, mystère et boule de gomme, quelle sera l'identité de ce personnage qui accompagnera Ellie dans le très 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 attendu, y compris par moi-même, The Last of Us Part 2 ? Ben, j'ai hâte de le savoir. Mais vous vous doutez bien que dès que j'aurai l'info, je bondirai sur mon micro pour vous en informer. Et oui ! Bref, allez, on passe à la suite. J'ai décoté un article sur le Guardian, dans sa version en ligne en tout cas, l'existence de la société 8-4, une société fondée par Hiroko Minamoto et John Ricciardi. Que fait cette société ? Eh bien, figurez-vous qu'elle est située au deuxième étage d'un modeste immeuble situé à Shibuya, nous dit le papier, à Tokyo bien sûr, et que cette société s'occupe de traduire des jeux japonais pour l'Occident, mais aussi des jeux occidentaux pour le territoire japonais. Son nom, 8-4, est une référence au dernier stage de Super Mario Bros. Le papier en préambule nous indique qu'effectivement la localisation de jeu est un processus qui implique non seulement la traduction linguistique, certes, mais aussi la vérification d'éléments tels que l'exactitude, la cohérence des références culturelles. Il faut faire des suggestions d'amélioration pour les développeurs, histoire que les joueurs ne soient pas trop perdu. On nous dit aussi que dans la pratique, il s'agit d'une ribambelle de feuilles, de calculs et de mails à tir larigot. Alors la charge de travail pour 8-4 varie considérablement, nous dit le papier, d'un projet à l'autre. Bien sûr, ils se sont par exemple occupés du JRPG Xenoblade Chronicle X, et donc là, effectivement, la localisation prend un temps considérable, mais pour des projets plus petits, comme des jeux mobiles ou des jeux indés, ça peut prendre une semaine ou deux, tout au plus. Mais la société gère également le doublage, les voix des jeux à gros budget, et c'est un processus qui peut monopoliser le personnel pendant des mois durant. Puisque pour la localisation, en tout cas pour l'Occident et bon pour les territoires anglophones, il faut réaliser ses performances vocales en Californie, à l'autre bout du monde, hein, nous dit l'un des employés du studio. Alors 8-4 est surtout connu pour la localisation de jeux japonais vers l'Occident, comme nous venons de le dire, mais comme je le disais également en introduction, ils aident des jeux occidentaux à se présenter au public japonais. Par exemple, l'un des derniers projets de l'entreprise a été la localisation de Undertale, le RPG qui détourne les codes du genre, hein. Le jeu indé qui ressemble à s'y méprendre à un Mother et qui a eu un immense succès critique, eh ben, a été un sacré défi de traduction, notamment à cause de son humour si particulier. On nous donne en exemple un gag difficile à traduire à travers les personnages de Papyrus et de son frère, vous savez, ces deux squelettes, dont les dialogues sont illustrés par une police bien particulière, Papyrus pour Papyrus bien sûr, et le Comic Sans pour son frère. Et donc dans la version japonaise, il a fallu trouver une autre astuce. L'un a un script dessiné à la main, l'autre parle avec des caractères irrévérencieux et mignons, nous dit-on, que l'on pourrait trouver par exemple dans une publicité ou une émission de variété japonaise. Ça a été visiblement un sacerdoce, sans faire de mauvais jeu de mots, mais ils y sont arrivés. Un autre projet que 8-4 a à gérer, c'est la localisation anglaise de Nier Automata, Nier Automata, qui nous rappelle The Guardian, je me fais plaisir, excusez-moi, hein, a largement été salué comme un jeu doté d'une narration dense, multicouche et doté d'une résonance émotionnelle puissante. Et donc la traduction y est pour beaucoup, le boulot de 8-4 là-dessus a été énorme. Les fondateurs du studio nous expliquent qu'ils ont posé énormément de questions à Taro Yoko, hein, le créateur de Nier Automata et de la saga Nier en général, pour obtenir le plus d'informations possible, histoire que la traduction, que la localisation aille dans le bon sens. Alors il faut savoir que l'équipe a déjà localisé 3 des jeux hein, de Taro Yoko en anglais, et donc le créateur japonais ainsi que le studio de localisation se sont vraiment bien entendus et ont l'habitude de travailler ensemble. D'ailleurs, l'un des employés nous dit « Yoko-san sait que nous allons avoir beaucoup de questions à lui poser et nous voulons tout savoir, avoir tous les détails avant de traduire, mais il apprécie cette démarche. » Donc ce papier excellentissime du Guardian m'a fait découvrir la société 8-4 que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, en tout cas moi c'est une découverte. Et je tenais donc à traduire ce papier pour vous ce matin. J'espère que vous avez apprécié, en tout cas je me suis régalé à lire et à traduire ce papier. « le Festival européen du film fantastique célébrera le jeu vidéo en septembre. C'est jeuxvideo.com qui nous parle de ça et qui nous dit donc qu'à la rentrée, le Festival européen du film fantastique de Strasbourg reviendra pour une 11e édition qui fera naturellement la part belle au cinéma, mais, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, également aux jeux vidéo et ce de plusieurs façons. Les organisateurs de cet événement, nous dit l'article, donc qui se déroule du 14 au 23 septembre, dévoilent le programme de la section jeux vidéo et réalité virtuelle pour cette année. Il y aura donc la 6e édition de l'Indie Game Contest, une compétition internationale de jeux indépendants dont le jury sera composé de Doc Gero, c'est un youtubeur que j'aime beaucoup, Boule à Poire, donc l'ancien de Gamecult, Sophie Krupa, qui, si je ne fais erreur, est la co-créatrice du podcast ABCD, elle fait aussi partie de l'équipe du podcast ZQSD et du magazine JV Le Mag, et Buntevi Suvilet, mon ancienne rédactrice en chef d'IG Magazine, qui a d'ailleurs sorti récemment un superbe bouquin appelé Indie Game, on en a déjà parlé dans cette émission, mais je vous conseille vraiment de vous ruer sur cet ouvrage vraiment indispensable si on aime le milieu du jeu vidéo indé. Donc, il faut savoir que pour cet Indie Game Contest, l'appel à soumission est ouvert jusqu'au 1er août. Il y a plus d'infos sur le site officiel, mais je vous mets tous les liens qui vont bien dans la description de cette émission, bien sûr. Il y aura aussi le VR Film Corner qui permettra de voir une sélection internationale de films en réalité virtuelle. Mais il y a aussi trois conférences de Calais. La première s'intitule Les mondes virtuels du MMORPG à la VR, ça fait peur, avec Yann Main et Patrick Schmoll, et ça ce sera le 16 septembre. Manga et jeux vidéo, un destin croisé avec Buntevi Suvilet, Alt 236 et Rufio, et ça ce sera pour le 19 septembre. Et enfin, jeux vidéo indépendants, la guerre des consoles, avec Nicolas Turkev, un rédacteur que j'aime particulièrement, Thomas Altenberger et Oscar Barda, et ça c'est calé pour le 21 septembre. Il y a d'autres événements, un concert d'Eleven, ça c'est le samedi 15 septembre, une nocturne dédiée aux jeux vidéo d'horreur, ça c'est pour le vendredi 21 septembre, et une exposition de l'artiste numérique Yann Main. Un bien beau programme, bien sûr, donc si cela vous titille, je vous conseille vraiment d'y foncer, je ne pourrais me déplacer pour y assister. J'espère tout du moins que les conférences seront filmées, car j'aimerais vraiment pouvoir me délecter de ces confs qui, normalement, devraient être très très agréables et très instructives. C'est en tout cas une belle initiative du Festival européen du film fantastique, et on les salue pour cela. Merci beaucoup, messieurs dames. Et c'est ainsi que se termine cette édition, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite bon courage pour la journée, quelle que soit la tâche qui vous attend, j'espère que vous embrasserez cette épreuve avec panache et robustesse, et quant à nous, on se retrouve dès demain, bien sûr, pour une nouvelle revue de presse JV. Bon pied, bon oeil, comme disaient nos ancêtres, portez-vous bien, merci pour votre fidélité, et donc je vous dis à demain. Allez, bye bye.